de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie, là, j'ai mon cours de yoga.
Julie, on n'a pas d'enfants.
Il est 18h.
CIBL 101.5.
Mardi 5 février 2024.
Mars, bienvenue à Plaisir Gourmand.
Mais oui, on est déjà en mars, zut.
Bonsoir et bienvenue à Plaisir Gourmand ce mardi 5
mars
2024. Merci Romain pour cette belle date. Écoute, c'est vrai, hein, tu le disais, c'est le temps des sucres. Le sucre coule dans nos
veines.
Presque
un mois d'avance cette année, c'est fou.
Oui, en ce moment. Donc, l'émission la plus délicieuse à Montréal, Plaisir Gourmand, comme chaque mardi à 18h. Et une belle émission encore une fois aujourd'hui, Romain.
Des invités incroyables.
Incroyables. Écoute, le Festival Montréal en Lumière bat son plein depuis deux autres émissions de Sophie, hein, les deux dernières semaines.
Exact, que des belles visites.
Vous étiez à l'antenne et vous avez eu l'occasion de rencontrer toutes ces belles visites qu'on a en ce moment en ville. Et on continue aujourd'hui.
On continue, on lâche
aujourd'hui,
pas.
Et en fait... Je vais commencer par la deuxième demi-heure parce qu'on va d'abord faire un tour aux îles de la Madeleine. Notre invité est déjà arrivé. On va découvrir un sel unique. Les chefs ici qui sont présents, j'espère que vous en avez entendu parler puisque maintenant, on fait du sel au Québec, du vrai sel de finition. Un truc inimaginable, quoi. Il y a une dizaine d'années, Romain.
Oui.
Alors, moi, je trouve une excellente nouvelle qu'on ne soit plus obligé d'acheter des sels d'Europe alors qu'on en a ici, pourquoi pas.
Bon,
alors,
notre premier invité vient de la région de Guérande, donc on ne fera pas trop de comparaisons.
Oui, c'est vrai qu'on pourra parler Marais Salant, effectivement, avec notre invité, justement, qui est aussi là pour la première demi-heure, c'est Éric Guérin, qui est invité par Kevin Mougin. Du restaurant. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup, Éric, d'être venu de la lointaine, des lointains pays de la Loire, on va le dire comme ça, pour venir au Festival Montréal en Lumière. On va en reparler aussi d'ici quelques minutes. Et puis, en deuxième demi-heure, je vous le disais aussi, alors là, on va aller faire un petit tour au Centre Bell avec Yves Lowe, le chef exécutif du Centre Bell.
Absolument,
que
oui.
Ça, oui. Qui a aussi un événement cette semaine avec un chef de Terre-Neuve.
Absolument, oui. Alors, mon ami Jérémy.
Voilà.
Avec nous.
Oui, c'est pas la première fois que vous vous rencontrez, mais c'était il y a longtemps.
Oui, il y a très longtemps. Puis le fait de conjuguer ça avec le Festival en Lumière, on est très content de l'avoir parmi nous.
Et je trouve bien aussi qu'on mette Terre-Neuve sur la map parce qu'il se passe plein de choses sur le plan gastronomique dans cette île unique au pays.
Ouais.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure aussi en deuxième demi-heure. Et puis, Romain, tu t'es annoncé tout à l'heure.
Oui.
Donc, évidemment, tu es venu nous présenter un petit vin aujourd'hui.
Exact. Un vin de printemps, justement. De mars que de février.
Et bon, lié à notre invité d'honneur ici, Éric Guérin, donc des Pays de la Loire, évidemment, on ne peut pas ne pas parler, d'un de mes vins préférés, et je trouve sous-estimé, on l'a déjà dit en nom dans cette émission, qui s'appelle le Muscadet.
Exactement. Alors, c'est un bon vin pour commencer une émission, pour commencer n'importe quoi, en fait, un repas, un apéritif. C'est un vin extrêmement frais, et contrairement à ce que son nom l'indique, il n'y a aucun rapport avec le muscat, ni la muscadelle qu'on va retrouver de façon plus sporadique à Bordeaux. Le muscadet, en fait, c'est un des rejetons d'un cépage très prolifique qui s'est accouplé plusieurs fois. Vous avez vu Starbuck ? Le film Starbuck,
oui. Hein,
l'histoire de cet homme qui a donné
le clone.
Son... Et ben voilà, il y a un cépage qu'on appelle le Pinot Noir, le fort Pinot Noir, qui avec un autre cépage qui s'appelle le Gouais Blanc, nous a donné 16 cépages partout en France. Et un des rejetons, c'est le fameux muscadet, qu'on appelle aussi le melon de Bourgogne, peut-être parce qu'il a cette forme. Là, on a la feuille typique d'un chardonnay, c'est assez proche du chardonnay finalement, c'est cousin germain du chardonnay, parce que le chardonnay, c'est un des enfants du Pinot Noir. Et le Gamay aussi, et le Serrois. Et comme ça, on peut y aller, le Romorantin. Tout ça est issu... Tous ces cépages-là sont issus du même Starbuck, qui est Pinot Noir et Gouais Blanc. Et chacun, évidemment, va avoir son mélange d'ADN, puisque comme nous, chaque enfant ne ressemble pas à ses parents. Et donc le muscadet est quelque chose de vraiment particulier et qui a trouvé sa terre d'élection, non pas sur les calcaires comme la plupart des cépages bourguignons, mais sur les schistes du sud du massif armoricain, dans la région nantaise. Donc là, on parle évidemment de la région qui est un tout petit peu à l'est de Nantes, alors que Guérande, là où se trouve la mare aux oiseaux, je pense que ça s'appelle Brière.
Les marais de Brière.
Oui, moi, on est plutôt dans les marais pour faire pousser du vin.
C'est
un peu compliqué. Ouais.
Ouais, hein. Et donc, plus à l'ouest de Nantes, mais plus vraiment vers la mer. Pierre-Arc-sur-Mer, c'est magnifique, ces petits villages comme ça de bord de mer, vraiment des endroits magiques. Et donc, nous, là, on est du côté un petit peu plus chaud, quand même. On est un peu à l'abri. Et on est le côté est de Nantes, et c'est autour de deux rivières, non pas la Loire, mais la Maine. Et le Sèvre, donc la Sèvre et la Maine, pardon, qui sont ces deux rivières autour duquel on va trouver les meilleurs, les plus qualitatifs. Hein, des villages aussi ont le droit de poster, mettre leur nom sur l'étiquette comme Clisson. Et ça reste des vins toujours très abordables. Et donc ce que je vous ai amené aujourd'hui, c'est un château, mais ce n'est pas un château bordelais, c'est un château de la région de Nantes, un tout petit peu plus, un peu plus simple. Et on se l'a dit, c'est quand même un beau château. Et les frères Couillot, alors il y en avait trois, les frères Couillot. Le dernier est parti à la retraite, je crois qu'il s'appelait François. Donc là, maintenant, c'est ses neveux et gendre. Et non, gendre est plutôt bru. Je sais pas, c'est comme ça que ça
c'est une
dit.
Histoire de famille.
Exactement, qui ont repris, mais c'est toujours la même famille. Et on a un muscadet qui nous coûte au Québec 17 dollars.
Je sais que ça peut et paraître 75.
Cher. Et 75. Ce qui peut paraître cher pour nos visiteurs de France. Parce que c'est vrai que là-bas, c'est autour de 8 euros la bouteille.
Oui, ça coûte quoi 12 euros, ouais. Donc à peu près. C'est pas si mal pour le transport.
Ouais, exactement. Et donc puis, ça reste très simple. Mais pour nous, en termes de comparaison, parce qu'on donne de l'argent quand même au gouvernement en achetant du vin, c'est pour ça que nos routes sont si belles. Un petit peu d'humour. Mais on donne de l'argent pour le système de santé, l'éducation. Je suis professeur, donc au moins, ça paye une partie de mon salaire d'acheter du vin. Et donc ici, on
finance toute l'année, nous, en allant
exactement,
les sacs, c'est vrai.
Exactement. Et donc, on a un excellent muscadet, millésime 2022, c'est tout jeune. Et c'est ce que moi, je recherche dans un muscadet. Donc, c'est du schiste. Le schiste, normalement, c'est caillouteux, c'est chaud, mais on est au bord de l'Atlantique. On a aussi la fraîcheur de l'Atlantique. Et donc, ce mélange, hein, ce contraste, en fait, de terroir se retrouve dans ce cépage, dans ce melon de Bourgogne. Si vous voulez, on peut le déguster un petit peu ensemble.
Ouais. Ben, moi, je propose un petit chin.
On peut faire un petit toast. Chin.
Faites un petit toast. Et j'ai très hâte d'avoir le commentaire de notre chef Éric Guérin, justement,
absolument. Parce que c'est lui spécialiste.
Oui, puis il me disait juste avant qu'on commence l'émission qu'évidemment, naturellement, à son restaurant La Mare aux Oiseaux, il y a du muscadet.
Bien sûr, et je suis très fier d'en trouver ici, parce que c'est un vin quand même qui ne bénéficie pas d'une très très belle image.
C'est vrai, hein.
Puisque ça fait pas très longtemps que des gens comme la famille Luno Papin ou Fred Niger ont vraiment poussé pour faire de ce vin, qui était plutôt un vin de table. Français classique, en faire un vrai vin de dégustation avec une belle vivacité qu'on aime bien mettre sur nos tables gastronomiques aujourd'hui. Et c'est vraiment une grande fierté de le retrouver ici.
Et celui-ci, alors, est-ce que vous avez un commentaire précisément à faire sur cette ragotière ?
La ragotière ?
Oui.
Bon, il est très très bien, je ne le connaissais pas.
Ah, une découverte en
donc
plus
c'est une découverte. C'est une découverte, on sent bien le fruit, bah justement ce caractère, le schiste, ce caractère un petit peu minéral, et en même temps, on sent que la mer n'est pas très très loin. C'est un petit peu ce de quoi on bénéficie en région nantaise, puisque la Loire nous ramène les marais, et c'est vraiment quelque chose qui...
Spontanément, qu'est-ce qu'on,
se sent,
qu'est-ce
quoi,
qu'on
côté
mange
un petit peu
qu'est-ce qu'on mange avec ça.
Chez nous, on dit toujours qu'il faut le boire avec les huîtres.
Oui.
Mais bon, ça, c'est encore une histoire un petit peu d'avant. Moi, j'aime bien parce que ça vient dégraisser le palais. Ça vient apporter un petit peu de force. Ça marche bien avec tout ce qui est un petit peu acidulé, les pointes de citron. Et puis s'il y a... Nous, chez nous, on fait le beurre blanc. Ouais. Et du coup, ça vient aussi un petit peu dégraisser au niveau du beurre blanc. Ça vient donner, affûter un petit peu.
Avec une
ça.
Touche même de muscadet dans le beurre blanc ou ça se fait pas?
Si, si. Moi, je cuisine beaucoup au muscadet.
Ah.
Ouais. Jusqu'au
on
dessert.
On ne pas ça avec un puligny montrachet, mais avec un muscadet, je pense qu'on peut
se sentir
mettre
à l'aise
un peu dans la sauce. Et au contraire, ça, ça va faire un lien avec l'accord.
Même dans le foie gras.
Même dans le foie
j'ai
gras.
Fait du foie gras au muscadet. Ça apporte une véritable petite pointe super. D'acidité qui vient justement rendre le foie gras moins gras. Et au palais, c'est très agréable.
Et de toute façon, les vins qui sont sur l'acidité nous permettent de faire tellement d'accords. C'est vraiment une palette. En plus, c'est un vin qui est assez léger, qui va laisser libre cours au plat et à l'invention du chef. Et pour les huîtres, ce qui est intéressant, c'est que l'huître a un goût assez fort d'umami,
oui.
qui peut écraser certains vins fruités. Et donc celui-là, il est bourré de fruits, sans être non plus opulent. Hein. Vous savez que les Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande, on arrive un petit peu, on s'essouffle un petit peu là, de ces vins qui explosent un peu trop de fruits. Avec un muscadet, on a quelque chose qui est très mesuré, qui est très discret, mais qui est toujours présent.
Oui.
Et grâce à cette acidité, on peut faire un lien avec à peu près tout.
Romain, on voit souvent sur les bouteilles du muscadet sur lit.
Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait?
C'est des élevages sur des lits fines pendant, je pense, une dizaine de mois, sept mois, hein, pour, de mémoire sur ce vin-là. C'est-à-dire qu'en grande cuve inox, on va garder le vin sur ses lits, ça va l'enrichir un petit peu, ça va lui donner un petit peu de gras. Mais vous voyez que c'est relativement léger malgré tout. On a ajouté un petit peu de gras à ce vin. Ça reste un vin sec, sur le fruit, avec des notes d'agrumes. C'est un vin pour ouvrir l'appétit.
On a peu de sucre résiduel, visiblement. Hein.
Il doit y avoir 2 grammes maximum. Mmh. Voilà. Donc, c'est tout à fait un vin festif, également. Est-ce qu'on joue à la pétanque du côté de...
Eh non, on ne fait pas la pétanque chez
pas
nous.
Pas du tout. Alors, on joue à quoi? On joue au palais, non?
Ouais.
C'est La Rochelle plus ça, non?
Oui, je pense que c'est un peu plus bas. Chez nous, à Nantes, on ne joue pas à grand-chose.
Ah oui, on regarde les bateaux passer, on travaille.
On va à la pêche.
On va à la pêche.
On voit les bateaux se construire à Saint-Nazaire aussi.
Ouais,
c'est vrai,
aussi.
C'est vraiment à côté, en fait. Ouais. C'est ce que je regardais.
Et donc, avec le réchauffement climatique, on pourrait craindre que ces vins-là perdent en acidité. Or, il y a tellement un potentiel par rapport à ce cépage qu'on peut le vinifier sur plein de façons différentes. On parlait de Fred Niger tout à l'heure, qui s'amuse à faire des vins rouges. Des cépages bordelais justement dans la région et certaines années ça fait des choses vraiment très intéressantes. D'autres malheureusement avec le mildiou, parce qu'on est au bord de l'océan, comme on est en bio et ce vin-ci il est également, en tout cas lui est en conversion, domaine de l'éculé depuis longtemps,
ouais.
C'est des domaines qui risquent beaucoup chaque année parce que s'il y a du mildiou et de l'oïdium, on perd quasiment toute la production, ce qui est arrivé en 2017 par exemple. Après ça, on a
aussi le gel qui est...
Et on a le gel, évidemment, au début de
toujours
début
très présent.
C'est nouveau, ça, ou au contraire, plus fréquent, moins fréquent?
Non, je pense que c'est assez nouveau. Ça fait une petite dizaine d'années, là, vraiment, que les vignerons ont peur du gel.
Parce qu'on parle de dérèglement climatique. Les gens parlent souvent de réchauffement climatique.
Exact.
Mais c'est plus des redoux au milieu de l'été.
C'est ça.
Au milieu de l'hiver, pardon.
Au milieu de l'hiver.
Et donc, on a des débourrements, on a des bourgeons qui commencent à éclore. Après ça, on a un froid et clac,
ouais.
on perd nos
Est-ce que la Bourgogne a beaucoup vécu?
Oui. Est-ce que le nord de la Bourgogne connaît toujours beaucoup, oui. mais ils ont trouvé plein de moyens. Chablis, par exemple, ils aspergent la vigne des bourgeons d'eau qui vont geler. Okay. Il y a plein de techniques. À Bordeaux, les plus riches utilisent des hélicoptères.
Ah, ouais. Chez nous, on a moins de moyens. Donc.
Et nous, on fait des petites tentes au Québec. Hein. On abrite nos vignes sous des petits tipis sous la neige. Mais cette année, moins de neige. Donc ça va peut-être être plus difficile.
Ça va être plus difficile aussi pour les vignes ici.
Oui.
Les muscadets à la SAQ, comme ça, est-ce qu'on a une belle offre?
Ah oui, on a au moins une quinzaine, une vingtaine de muscadets, et puis en approvisionnement régulier. Donc on a vraiment parmi les meilleurs, on a Joe Landron, on a Domaine de l'Écu, et on a toutes les meilleures cuvées qu'on peut trouver. Sinon à la SAQ, au moins en importation privée. C'est très facile, on va sur les sites de la SAQ, on regarde la fiche produit, il y a écrit l'agence.
Ouais.
Après on tape le nom de l'agence sur Google, vous allez avoir le portfolio avec les vins en importation privée. Aujourd'hui n'importe qui peut en acheter, c'est à la caisse.
Ouais.
Et quand on a soif, hein, une caisse, c'est bien le minimum qu'on puisse acheter.
Je vais peut-être en ramener.
Hein, peut-être.
Ça serait drôle.
Vous ne seriez pas le premier à ramener du vin de France. En France.
Pourquoi pas.
Alors...
Conclusion.
Question, oui. Est-ce que Marie-Lou, tu aimes ce vin?
Oui, je
le
trouve.
Il y a Marie-Lou au bout de table qui est très, très songeuse.
je sais. Vous ne savez même pas pourquoi je suis là, moi j'ai une surprise tantôt. Là,
d'accord.
En fait.
Moi je vais vous proposer, excuse-moi Marie-Lou, je vais vous proposer un autre accord parce que même si on est au mois de mars et qu'il fait chaud dehors et que les érables coulent, c'est encore la saison de la fondue et de la raclette. Hein, pour ceux qui ont. Parce
c'est
que
vrai.
Au mois de juillet, ça se fait un peu moins. Et ça, c'est le type de vin parfait. Quand les enfants regardent pas, moi je mets un petit peu de muscadet dans le, parce que c'est pas forcément des vins de Savoie. Hein. On peut aussi aller avec des
dans
vins
un,
qui sont
n'importe quel vin. Exactement. Sec, en fait, dans exactement. Une fondue au fromage.
Normalement, c'est l'Ajaccaire, donc le sud de la Savoie. Ce sont des vins comme ça, assez discrets et peu dispendieux. Bon, ça coûte un peu plus cher de produire du vin dans ce coin-là, donc les prix montent assez rapidement. En muscadet, c'est une plus grande offre, une plus grande région aussi. Donc, on a des très, très bons rapports qui étaient pris. Pour moi, la fondue avec du muscadet, notamment celui de la Ragotière, c'est top-notch.
Ça va, monsieur Guérin, c'est pas trop une insulte?
Bah non, mais on va faire un chalet en rentrant, je pense.
Oui, hein.
Pardon, vous avez... On va faire un petit chalet en rentrant, hein. Ah, bon, bah, ça, au bord bien. De l'eau, puis je vais faire de la fondue. Mais au muscadet, oui. Bien sûr.
Pourquoi pas? Quelle bonne idée.
Avec la fleur de sel.
Mais oui, merci beaucoup, Romain.
Avec grand plaisir. Écoute,
Je te laisse avec ta grippe. Oui. Je te sentais un petit peu pas comme d'habitude.
C'est la fin de la saison.
Ouais, c'est ça. Hein. Ça roule en ce moment. Mais si c'est pas la rougeole.
La saison de la grippe, hein, je parle.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Romain, pour ces très instructifs sur le muscadet. Et justement, on va tomber là-dedans, puisque, monsieur Guérin, vous êtes en ville pour Montréal en Lumière. Ben d'abord, j'avais juste envie de savoir, est-ce que c'est la première fois que vous venez et quelles sont vos premières impressions, à part les routes, de la ville de Montréal?
Ben, c'est la première fois que je viens à Montréal, ouais. Effectivement. Alors, je suis déjà venu une fois, l'année, il y a 2 ans, je suis venu au Québec, mais pour une autre activité, en pleine forêt.
Ah oui, ouais. En quelle saison?
Au mois d'octobre.
Ok, pour les couleurs en plus.
Oui, juste au moment des couleurs. Et en fait, moi, je suis passionné d'oiseaux, passionné de nature. Donc, ça tombait très, très bien.
De chasse et de pêche aussi.
Et c'est un petit peu pour ça que je suis venu la première fois.
Ah.
Et que je reviens l'année prochaine.
Ah ouais.
Oui. Et du coup, là, ça me faisait vraiment plaisir de venir à Montréal et de venir au contact de la population. Parce que j'ai eu l'occasion aussi, à la Mare aux oiseaux, d'avoir des stagiaires de chez vous, là, des écoles hôtelières.
Ah ouais. De l'IDHQ, notamment,
exactement,
j'imagine.
Exactement. Et c'était un vrai bonheur à chaque fois de recevoir... les Canadiens chez nous. Malheureusement, les périodes de stage ont changé. Avant, c'était plutôt sur l'été, le printemps-été. Maintenant, c'est sur le mois de janvier quand je suis fermé, donc je ne peux plus travailler avec eux.
C'est vrai, c'est dommage.
Et c'est triste. Donc, effectivement, quand Kevin m'a demandé de venir travailler avec lui au Lloyd...
Alors, c'est Kevin. Ouais. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. C'est Kevin qui... Pourquoi Éric Guérin?
Bah aussi, c'est avec Benjamin, le FNB. Quand on a fait notre recherche, lui, il vient de Loire-Atlantique. Il connaît ce point-là. On a contacté Eric culot, on va dire.
Ouais.
Exactement. Et puis, on lui a envoyé un email. Et puis, on a eu la réponse. C'est quoi, le 31? Je crois que c'est le 31 décembre.
Ah oui, j'étais en Afrique, moi.
Oui, il était en...
Bien dans le micro,
oui,
s'il vous plaît.
Il était en Afrique et c'était le 31. Et le 31 décembre. Et puis, de là, on a commencé à concrétiser pour venir. Et puis, ça s'est vite fait pour qu'on fasse un dîner ensemble à quatre mains au restaurant Lloyd. Demain et après-demain. Donc, c'était vraiment intéressant. On a échangé beaucoup par WhatsApp, comme on dit.
Ben oui, WhatsApp, c'est ce que les Français utilisent
c'est facile.
Tout le temps.
Ouais,
c'est facile pour les produits, tout ça, tout trouver les produits, et puis qu'on puisse faire le dîner le mieux possible, dans les meilleures conditions.
Alors, Kevin Mougin, vous, c'est le Lloyd. Oui. Puis, j'ai regardé votre feuille de route. C'est à l'opposé d'Éric Guérin, là, parce que, moi, si j'ai bien compris, vous avez plutôt vécu... à l'autre bout de la planète.
Oui, moi j'ai vécu, j'étais sur Bora Bora pendant presque 6 ans.
Donc la Polynésie française, dans le fin fond du Pacifique. Vous connaissez Eric, est-ce que vous êtes déjà allé
dans
ce coin-là?
Pas du tout, pas encore.
Hein. Un jour aussi.
Il me donne envie depuis hier, on en parle.
Je lui ai raconté un petit peu ma vie là-bas. Et puis ouais, c'est totalement différent, comme c'est à l'opposé, quoi,
ouais.
Comme vous l'avez dit.
Bien sûr.
Et puis après, j'ai amené un petit peu de ma... Comment on dit la Polynésie avec moi sur Montréal au restaurant Lloyd.
Ouais, exact. Donc, voilà. Alors là, donc là, c'est le pays nantais qui rencontre la Polynésie.
Ouais, c'est plus. J'ai quand même resté pour qu'on reste un petit peu dans un lien. J'ai pris mon côté, on va dire, de France.
Ouais.
Et on a fait un dîner à quatre mains. Donc on a partagé un amuse-bouche et ensuite Eric il fait une entrée et un poisson. Et ensuite, nous, on fait la viande et le dessert. Donc, c'est ce qu'on dit, un dîner à quatre mains. Ça se fait beaucoup dans les restaurants. Ça permet d'échanger aussi avec les équipes, parce que c'est intéressant pour nos équipes de découvrir un chef, une autre façon de travailler au sein de nos cuisines. Donc, c'est vraiment très enrichissant pour
j'imagine.
Les équipes. Quoi.
Qu'est-ce qui, d'ailleurs, vous a frappé chez Éric Guérin dans ses techniques ou savoirs ou connaissances culinaires?
Il utilise des produits de la mer, ce qui est logique.
Ouais.
Mais après, ce que j'ai été surpris, c'est qu'on voit qu'il voyage parce qu'il utilise aussi bien des produits... il va mêler les produits qu'on reconnaît un petit peu en Loire-Atlantique avec des produits d'Asie, avec différentes... Enfin, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Enfin, il va mieux résumer que moi sa cuisine, mais c'est ce que moi j'ai ressenti quand, dans la démarche de produits, de marier aussi bien des algues que d'autres produits dans ses recettes. Donc c'est vraiment intéressant d'échanger avec lui.
Vous travaillez les algues au Québec aussi maintenant, hein, c'est devenu fréquent de travailler avec les algues.
Alors moi, je suis avant tout un grand contemplatif de la nature, donc je m'inspire beaucoup des contrastes, des couleurs, de tout ce que je vois, des odeurs quand je voyage. Et je les ramène chez moi. Et chez moi, j'ai la particularité d'avoir un de mes anciens chefs et second que j'ai missionné sur le terrain pour aller voir les producteurs. Et c'est lui qui ramène tout. Et toutes les semaines, il me ramène une fiche technique aussi avec ce qui va pousser la semaine d'après, ce qui pousse vite, ce qui pousse moins bien, tous les petits problèmes, tous les avantages qu'il y a sur le terrain. Et du coup, je construis mes menus chaque semaine en fonction de ce qui pousse dans les champs autour de chez moi. Et je fais une cuisine qui n'est pas saisonnière, mais ultra saisonnière, parce que c'est à la semaine. Mmh. Et je travaille vraiment avec que des petits cueilleurs, des petits producteurs, des gens qui normalement ne travaillent pas avec des restaurants parce qu'ils ont des structures beaucoup trop petites. Et c'est vraiment un territoire que j'ai complètement adopté et qui me sert comme un pain, pourrait servir comme une palette un petit peu.
Je comprends. Vous avez vous avez peut-être plus d'avantages parce que par exemple l'hiver,
ça pousse saisons, encore.
Voilà.
Par rapport à ici,
on n'a pas tout à fait les mêmes défis. Oui. Est-ce que quand vous êtes venu ici, vous aviez des idées que vous n'avez pas pu mettre à exécution parce que bon, qu'est-ce qu'on trouve comme produit qui pouvait vous intéresser?
Non, c'était pas vraiment ça. J'avais plus envie d'amener une touche de chez moi et donc j'ai réussi à transporter par exemple les marrons d'à côté de chez moi. J'ai un producteur que je connais depuis deux ans seulement et j'avais vraiment envie de travailler ce produit-là parce que c'est quelque chose qui me rappelle les balades en forêt, l'automne, l'hiver avec mon chien. Absolument. Quand je vais chasser la bécasse. On a ramené des algues fraîches aussi. On a notre cueilleur d'algues qui ramasse des toutes petites algues qui sont poivrées. Ouais. On a une algue qui a un goût d'huître et une algue qui a un goût de poivre. Et là, on a amené en frais les algues poivrées. Et du coup, on va jouer avec ce contraste entre le marron qui a une toute petite côté un peu racine, sucrée, et puis la pointe d'iode très forte de cette algue poivrée. Et on a fait autour de ça, on a repris une recette qui est la truite aux amandes française pour mettre un poisson qui est chez nous un peu décrié et oublié pour le remettre en avant. Alors ici, on a réussi à avoir des truites. À la maison, on le fait avec des mulets parce que c'est un poisson qui a une mauvaise presse aussi.
Alors qu'ici, on a des élevages d'huîtres.
De truites.
Bah oui.
Alors que chez nous, il n'y en a plus. Il faut aller à Lyon. Et si je les fais venir de Lyon, ça veut dire qu'elles voyagent. Ouais. Donc, c'est plus du local. Donc, chez moi, bah, j'utilise le mulet parce que les gens, ils ont l'image du mulet dans les ports là, élevés aux hydrocarbures. Là. et alors que le mulet, c'est un poisson migrateur qui remonte les rivières. Et du coup, j'ai un pêcheur professionnel qui le pêche pas en mer, mais en rivière. Et ça permet aussi d'expliquer ça aux gens.
Donc, vous racontez des histoires aussi dans votre restaurant. Hein. C'est ça, c'est l'expérience, mais c'est aussi l'histoire.
Bah, c'est-à-dire que, avant tout, moi, c'est une région d'adoption. Et j'ai envie d'être une vitrine pour ma région, que j'aime, et de la partager. Et chez nous, les serveurs ne sont pas des serveurs, mais des conteurs. Donc, notamment, on leur fait faire des cours de théâtre. Ils ont 3 heures de théâtre avec un metteur en scène dans un vrai théâtre.
Sans blague.
Tous les mois. Wow. Et on leur apprend à bien se tenir, à bien s'exprimer, à avoir conscience de leur corps, de leur position. Et ce qu'on leur demande à table, c'est d'exister. Ce qui est souvent pas le cas dans les restaurants. On leur demande plutôt de s'effacer pour laisser la cuisine.
D'être discret.
Oui, alors que chez moi, je veux qu'ils existent par leur personnalité et justement qu'ils transmettent l'ADN de la région, du territoire. Et ça, ils le font beaucoup mieux que les cuisiniers.
Est-ce que ça vous inspire, Kevin ?
Bah oui, complètement. Je vais mettre mes serveurs au théâtre, je pense.
Bah vous avez un théâtre.
On a un théâtre dans l'hôtel, donc on n'est pas loin à faire les cours.
Alors justement, continuons sur le menu un petit peu de Montréal Lumière.
Donc le menu, c'est demain soir et après-demain soir. Ouais. Il nous reste quelques places si des gens sont intéressés.
Il faut le souligner.
Donc c'est un menu 5 services, un prix de $150. Donc 5 services avec les milliardises en plus, donc ça fait 6 services, voilà pour exactement. Et puis vous avez 2 amuse-bouches, vous avez une entrée à base de poisson, c'est la truite aux amandes.
Ouais.
Ensuite nous avons un rouget, et ensuite nous avons un filet de chevreuil, purée de céleri à la livèche, et on termine avec un dessert au caramel beurre salé qui est quelque chose qu'on retrouve dans la région.
J'allais dire Bretagne, on n'est pas loin de la Bretagne.
Voilà. Donc, là, ils ont fait un petit accord entre le Québec et la Bretagne. Là.
Voilà, c'est ça, le chef pâtissier a rajouté un caramel d'argousier. pour mélanger
Oui. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'argousier?
Alors, je connais l'argousier, mais je savais pas comment m'en servir. Et cet après-midi, j'ai pris un cours avec le chef pâtissier. Donc, quand je vais rentrer, je vais aller les cueillir directement dans l'arbre. Et...
Ah, oui.
Oui, oui. Promis. Je vous enverrai des photos.
Bah oui, je trouve ça intéressant parce que l'argousier, ça pousse un peu partout.
Oui, oui. On en a beaucoup chez nous aussi.
Ouais.
Mais on s'en sert pas. On laisse les fruits tomber par terre et on les ramasse pas. Oui.
C'était comme ça, parce que c'était une inconnue. Oui. Il fallait venir ici pour faire connaissance avec l'argousier. C'est quand même.
C'est ça.
Moi, je trouve ça merveilleux. Et comment c'est de travailler à quatre mains alors? Comment
C'est intéressant. On échange. Et puis aujourd'hui, on a été faire une petite visite aussi, vu qu'il y a l'érable qui arrivait plus tôt. Donc faire découvrir un peu le terroir du Québec au chef. On est parti visiter.
Vous êtes allé où?
On est à l'érable de la montagne.
OK.
Donc voilà, on est parti vraiment traditionnel manger. Donc c'est intéressant aussi, faire venir un chef, c'est pas que cuisiner, c'est aussi l'amener un petit peu dans lui faire découvrir le Québec.
Ouais.
Puis ce qu'il y a à faire, on va aller à Montréal, bien sûr, faire les incontournables, aller manger un smoked meat et
bien
une
sûr.
Poutine, oui. Toute la tournée, comme on dit, des Grands Ducs. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est pas que cuisiner, c'est aussi se découvrir entre personnes.
Je crois qu'avant tout, et moi c'est pour ça que j'accepte ce genre de voyage, c'est l'humain. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que je ne voyage jamais tout seul, en fait. Parce que moi, voyager, je peux le faire. Mais là, j'emmène toujours un de mes seconds avec moi.
Ouais.
Donc,
qui, pour lui aussi, c'est une première où
exactement, il exactement. Donc choses, là, j'ai emmené Léa, qui est ma seconde, qui est là en cuisine en ce moment, en train de travailler avec son équipe. Donc en plus, il y a cette immersion où là, du coup, je ne suis pas là. Et c'est très bien parce qu'elle a une immersion libre et c'est toujours beaucoup plus riche pour elle. Et ça ouvre l'esprit à des jeunes. Pour aller ensuite cuisiner ailleurs, pour ouvrir l'esprit sur le monde, sur les cultures. Et je trouve que c'est très agréable. Et quand ils rentrent en France après, ils transmettent au reste de la brigade. Et c'est très enrichissant pour tout le monde.
Hein, c'est ça, ça allume les équipes. Mmh. Ça leur donne un petit peu de raison de continuer à découvrir.
Ouais.
On a un petit quiz.
Ouais,
avant de faire la pause de la demi-heure, Marie-Lou, vous a proposé. Enfin, préparez-vous quelques questions. Je t'en prie.
Ben, ça va me faire plaisir. Déjà, tu parlais du terroir. Là, vous parlez que vous avez visité aujourd'hui. Ben, ça tombe bien. J'espère que vous avez pris des notes. Ouais. Parce que j'ai un quiz.
Et d'ailleurs, j'invite Yves Lowe aussi, qui est déjà là. Puis Joël Arsenault, bonsoir. Merci des îles.
Bonsoir.
Pour laisser à l'Alcyon. Participez au quiz, bien sûr.
Oui, ben,
avec
oui,
plaisir.
Là, je vous veux tous là, sur les questions. Ça va être 8 questions séparées en deux moments, je pense, dans l'émission.
Deux blocs, oui.
Exactement. Donc, voici les 4 premières. La personne qui gagne mon sourire. Alors, première question. La canneberge, c'est un fruit qui pousse facilement au Québec grâce à notre climat froid et à nos sols acides. Dans laquelle de ces régions québécoises suivantes, c'est laquelle la plus propice à sa culture? A. La Mauricie. B. Le centre du Québec. Ou C. Les Chaudières-Appalaches.
Il va falloir que je revienne.
Ouais.
Je dirais B.
Kevin. B, peut-être. Mais je suis pas sûr de moi. Je suis pas
c'est bien parti. Yves.
Alors, j'ai de la pression parce que, évidemment, je vis ici.
Ouais.
Je vais dire le centre du Québec.
Centre du Québec deux
Joël?
Fois? Oui, je serais allée dans ce sens-là aussi.
Trois fois. C'est moi la aussi. Bonne réponse. Yes. C'est en effet au centre du Québec que la canneberge pousse de façon prolifique.
Les bois francs.
Exactement. Pour ma deuxième question, alors, le porc du Québec est beaucoup mis de l'avant, que ce soit dans les épiceries ou même à la télévision. On voit des pubs souvent sur le porc. Et il est vendu ici,
porc
mais
P-O-R-C,
aussi...
Porc PORC, pour ceux...
Ah oui, l'animal. Vraiment, la nourriture.
Oui.
Alors, il est vendu ici, mais aussi dans 60 autres pays. Toutefois, quel est le pourcentage de porcs élevés au Québec qui sont transformés au Québec? A, 55%, B, 80% ou C, 100%?
Moi, j'aurais dit 80.
B aussi. 80. J'irais
80 aussi.
J'irais avec le plus petit nombre, ouais, 55, je crois.
55?
Hein? Ouais.
80. Vous avez tous tort, c'est 100%.
Oh.
Ah, oui.
Tout le porc élevé au Québec, transformé au Québec avant d'être exporté. Là. Donc vraiment, c'est 100% fait de façon locale. Donc, c'est chouette à ce niveau-là.
Mais très demandé en Asie, c'est vrai.
Oui,
oui, oui demandé partout, là, vraiment. Là, on exporte dans bien des places. Ensuite, troisième question. Le sirop d'érable a été découvert il y a des centaines d'années par les communautés autochtones de l'Est de l'Amérique pour le désigner en algonquin.
Ah.
Alors, je vais vous dire le mot. Là, je vais essayer d'y aller de la façon la plus intuitive que je peux, mais ça va sûrement être écorché. Oh. Sinzibikwud. Alors, que veut dire ce mot exactement? A. Sirop d'écorce. B. Tiré de l'arbre. Ou C. Sève sucrée.
Ah oui.
Je dirais la C.
Oui, hein.
C'est sucré.
Ou tiré de l'arbre.
Moi, j'aurais dit tiré de l'arbre.
Tiré de l'arbre.
Ouais. 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 C'est romantique, à
là
la
où,
limite.
Là où,
ouais.
Ouais.
C'est... Ouais, là. Moi, j'aurais dit B, mais je trouve que C fait du sens aussi. Mais c'est en effet tiré de l'arbre. C'était le deuxième, le B.
Ah oui, ouais. C'est le premier à avoir répondu.
Exactement. Il y a eu plusieurs légendes là, que j'ai vues passer sur l'Internet, mais rien n'a été confirmé parce que ben, souvent, chez les Premières Nations, c'est la tradition orale qui, était, qui primait par-dessus l'écrit. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas vraiment de preuves là, de savoir qui a découvert le sirop d'érable en premier. Mais on sait que ce n'était pas Christophe Colomb.
Dernière question avant la pause.
Bien sûr. Alors, l'oursin vert est facile à retrouver au Québec, particulièrement en Gaspésie. Toutefois, la partie de l'invertébré qui se mange, c'est la partie jaune-orange à l'intérieur. Mm-hmm. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est?
Ah oui.
A, des organes digestifs. Mm. B, des organes reproducteurs. Ou C, du gras.
Les alimentaires d'oursins ici, moi, je connais la réponse.
Reproducteur. Moi, j'en ai au menu pour...
Oui. Alors, reproducteur ici. Ouais,
pareil.
Pareil.
Je râle avec B. Des organes reproducteurs?
Oui, ouais, même chose.
Ouais.
Ouais? Ouais. En effet, il y a 5 gonades et c'est ça qu'on mange à l'intérieur de l'oursin. Et j'ai vu une vidéo, là, c'est un d'un monsieur qui vient d'un oursin. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Mm-hmm. Il y a les gonades, il y a un tube digestif, de l'eau. Corrigez-moi si j'ai tort, vous êtes chef.
C'est ça. Est-ce qu'on mange de l'oursin dans votre région?
Oui, beaucoup,
Éric?
Oui.
Oui, oui. Aussi, à part, il n'y a pas que des huîtres. Bon.
Est-ce que c'est un oursin vert?
Non, on a des verts, on a des violets... Oui, on a un peu les deux.
Mais fantastique. On est peu...
Merci Marie-Lou. On va faire une première pause pour cette émission. Et puis au retour, on va aller faire un petit tour au Centre Bell.
Oh là là.
Oui, avec Yves Lowe qui est notre invité aujourd'hui pour nous parler un peu de son menu inspiré avec votre collègue de Terre-Neuve,
Jérémy Charles.
Désolé. Voilà. Et puis on va parler du sel, le fameux sel de finition des îles de la Madeleine avec Joël Arsenault. C'est aussi en deuxième demi-heure. Alors à tout de suite, à plaisir gourmand.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco-Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. La promotion de la langue française a toujours été une préoccupation à Éco-Montréal. C'est pourquoi le journal a lancé le concours « Le français, la langue qu'on aime » en collaboration avec le ministère de la langue française et le CSSDM pour promouvoir le français auprès d'élèves de 3e secondaire en leur permettant de s'exprimer sur le sujet. Les 3 finalistes verront leur texte publié dans le journal. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Tous les mercredis à 8h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission « À la croisée des toits » en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand qui couvre avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard
et Bernard Dufour, tous les dimanches de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
Plaisir gourmand, l'antenne de CIBL, c'est le Festival Montréal en Lumière qui bat son plein depuis 2 semaines déjà. Et avec nos invités aujourd'hui à l'émission, on continue à parler de ce festival. On va passer la POC. Elle est bonne, hein?
C'est très bonne.
C'est très original.
Absolument.
Excusez, Yves. Yves Lowe, donc, j'aime bien dire chef exécutif au Centre Bell, mais Centre Bell, c'est pas un resto.
Non. Le Centre Bell n'est pas un resto, mais il inclut presque 5 restaurants. Maintenant.
C'est vrai?
Oui, déjà. Je dis déjà parce que quand j'ai commencé il y a 9 ans, il n'y en avait que 3. Et puis, c'est ça. Avec les années, on prend de l'expansion. Puis, cette année, pour le Festival en Lumière, on a décidé de se la jouer un peu haut de gamme. Et j'entendais mes collègues chefs parler et discuter tantôt. C'est de la musique à mes oreilles d'entendre leur façon d'élaborer le menu et de quelle façon ils arrivent à tous les jours à livrer un produit sur la table. De notre côté, on a une toute autre réalité, évidemment. On est un établissement où les restaurants sont ouverts à l'événement.
Oui, hein? Donc, uniquement pendant la soirée.
On n'est pas sur un 5 jours ou 7 jours semaine.
Ça s'appelle le Mythique, en passant. Là.
Oui, pour ce qui est de l'événement.
Pour ce qui est de l'événement,
oui, au effectivement. Le Mythique, et puis, comme je disais, sur des...
Pourquoi le resto n'est-il pas ouvert tout le temps? C'est quoi le...
Simplement, c'est pas un désir qu'on a pour l'instant. Si éventuellement la popularité se fait sentir, peut-être qu'on arriverait à ça. Mais c'est pas un réflexe de monsieur, madame, tout le monde de dire « Ah, on va aller manger au Centre Bell un soir de semaine, par exemple. Mm-hmm. » Donc, l'accès n'est pas nécessairement facile.
Sauf s'il y a un spectacle. Pas
alors,
nécessairement le Canadien qui joue, d'ailleurs.
Non, c'est ça.
Ou n'importe quel spectacle.
Exactement.
Vous êtes ouvert.
Donc, si Pink est en ville, nos restaurants sont ouverts.
D'accord. Oui.
Voilà.
Alors, pour Montréal en Lumière, vous avez choisi, je ne sais pas si c'est vous qui avez choisi
d'aller. On s'est choisi mutuellement.
C'est vrai, hein?
Oui, c'est une belle histoire.
Jérémy Charles, donc.
Ouais. Si je résume brièvement, moi et Jérémy, on a travaillé ensemble il y a 25 ans. Et puis, on s'est perdu de vue, on se suivait sur les réseaux sociaux, mais sans plus un like à gauche, un like à droite. Et ce qui arrive, c'est qu'en début de saison cette année, Jérémy est un grand fan de hockey et a la chance d'assister à le morning skate, qui est la pratique des joueurs avant le match du soir. Et il est là avec son fils et sait très bien que je suis chef au Centre Bell. Donc, il a vu un de mes cuisiniers passer tout près de la glace, puis il a demandé à me voir. Et donc, je suis allé à sa rencontre. Et que fut ma surprise de voir Jérémy après
Incroyable,
toutes ces
hein?
années. Oui, effectivement. Puis Jérémy a la chance d'avoir une de ses réputations. Pour moi, c'est un modèle. Donc, de pouvoir le croiser après toutes ces années. Je lui ai fait faire le tour de mon établissement, ma bibitte à moi, comme j'aime le dire. Et puis, il m'a tout de suite dit, je rêverais de passer une journée avec toi. Et j'ai dit, quand le moment sera opportun, on se contacte. Et puis... ça a pris quelques semaines. On a, en réunion après événement, on a tranquillement mentionné l'idée de faire connaître les restaurants du Centre Bell au grand public.
Est-ce que c'est la première fois que vous participez à Montréal en Lumière?
Oui, absolument.
Je ne me trompe pas.
Donc, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a des restaurants dans le Centre Bell. Donc, c'était le moment opportun pour nous de le présenter à tout le monde. Et j'ai proposé d'inviter Jérémy pour le Festival en Lumière. Je trouvais que le timing était excellent. Donc...
Voilà. Alors, Jérémy, on le présente quand même, donc, de Saint-Jean à Terre-Neuve.
Oui.
Ça s'appelle le Raymond, puis le Merchant Tavern.
Merchant Tavern et le
Dont le menu
Raymond's.
Est très, très, très justement, encore une fois, bord de mer, évidemment.
Oui.
On est à Terre-Neuve, on ne pourrait pas s'en passer, quoi qu'il y a encore pas mal de gibier aussi.
Absolument. Terre-Neuve est la seule province au Canada où ils ont le droit de servir du gibier à leur
Sauvage.
Table dans les restaurants.
Exact.
Donc,
parce que c'est une île.
Oui.
Et donc, elle est préservée, en quelque sorte, des maladies. C'est un peu ça. Une des raisons pour laquelle, si j'ai bien compris, on peut encore servir du gibier là-bas, alors qu'on s'est interdit ailleurs
Absolument.
Au pays.
Donc, Jérémy est un personnage en soi, pêcheur, fan de chasse, à n'en plus finir.
Je pense que Rémi...
je pense que vous entendriez très bien.
Éric Guérin,
oui.
Faudrait que vous allez faire un tour.
Oui. Et puis, Jérémy, la saison de la chasse, donc...
Sacré.
C'est sacré pour lui. L'orignal se retrouve sur la carte du restaurant. C'est une toute autre réalité.
Vous avez déjà goûté de l'orignal, Éric?
Non, jamais. J'en ai même jamais vu dans la nature.
Bon.
Avant de goûter, j'aimerais bien en voir.
J'ai eu le plaisir de goûter du tataki d'orignal, mais c'est malade.
Oui.
Et puis, il y a vraiment le goût de gibier de sauvage. Donc, c'est rien à voir avec ce qu'on peut faire en élevage.
Absolument. Donc, pour le Festival en Lumière, Jérémy arrive avec sa cargaison. On a la chance de peut-être fermer le Festival en Lumière, si vous voulez. On est dans les derniers événements qui vont suivre le 8 et le 9. Et Jérémy arrive demain avec, bon, mon Dieu, des huîtres de Terre-Neuve. Il a envoyé des plongeurs aller pêcher les pétoncles, les Saint-Jacques directement dans la baie de Terre-Neuve. Et ils arrivent aussi avec du lièvre. Donc, on aura une belle panoplie de saveurs à proposer. J'ai bien hâte de cuisiner avec lui pour ça.
Est-ce qu'on peut avoir une idée plus précise un peu du menu? Est-ce que vous avez déjà
On a déjà élaboré le menu. Nous avons, pour commencer, les gens vont se partager un plateau de fruits de mer. Il y aura de l'oursin, comme on a parlé dans le quiz.
De Terre-Neuve, donc, ou du Québec? Je ne sais pas en ce moment du Québec, je ne suis pas sûr.
En fait, les arrivages d'oursins sur le marché de Montréal, ça devrait commencer cette semaine. Mais on n'était pas en mesure de les avoir à temps.
Du fleuve, probablement,
oui,
hein, c'est ça?
Effectivement.
Kakuna, dans ce coin?
Et, donc, on aura de l'oursin de Terre-Neuve. On aura, dans le plateau, il y a du crabe des neiges. Il y a des huîtres de la Côte-Nord. Je vous explique un peu le lien sur le menu. On a décidé de développer un menu côtier. Moi-même étant natif de Forestville, sur la Côte-Nord.
Oui, qui est déjà aussi...
Déjà aussi avec ses propres produits de la mer et de la chasse aussi. Mais on a voulu jouer sur cet environnement-là pour le développement du concept du menu. Donc, suivi après notre plateau de fruits de mer, on aura des pétoncles, un crudo de pétoncles dans sa coquille. On va poursuivre avec un ravioli de lapin de lièvre braisé. Et là, c'est un beau petit clin d'œil à... ou le chef Claude Pelletier.
Oui.
La raison est que moi et Jérémy, il y a 25 ans, on travaillait pour Claude au Méditerranéo sur la rue Saint-Laurent.
Restaurant de la rue Saint-Laurent.
On a voulu souligner son apport à notre carrière mutuelle.
C'est chouette, oui.
Oui. Puis pour ça, on a choisi un plat typique qu'on se rappelait les deux avec anecdote. Donc, on a décidé de le mettre au menu ce soir-là et on va avoir la chance d'avoir Claude et sa conjointe le premier soir comme invité spécial. Et donc, voilà, je continue au niveau du menu. Ouais. On aura de la morue de Terre-Neuve, évidemment.
Bien sûr.
J'ai voulu faire en plat principal un canard. Il y aura un canard avec une sauce à la chicoutée.
Chicoutée, une autre baie que vous connaissez.
Ça, non, je ne connais pas du tout chicoutée.
C'est typique de la Côte-Nord, par exemple. Je pense que c'est même indigène.
Je dirais, oui, absolument. Une framboise qui est orangée. J'aime dire que ça goûte le popsicle à l'orange.
Et c'est sauvage.
Oui, absolument, sauvage. Ça pousse dans la toundra québécoise. Et en pré-dessert, nous aurons des érelles qui poussent aussi du côté de Terre-Neuve sous le nom de Lingonberries.
Lingonberries, c'est ça.
Exactement. Et puis en dessert, on fait un dérivé d'une mousse au chocolat avec un thé du Labrador qui est infusé dans la ganache. Ça fait un petit rappel encore là. Et on fait un caramel de topinambour.
Oh, alors ça, t'as travaillé le topinambour en dessert?
Ouais,
moi, je le fais en ce moment, topinambour, chocolat, café.
Ah, j'aime bien.
Avec des champignons. Tout ça en dessert.
Ah, ouais. Ouais, c'est intéressant. J'avais même rencontré une fois un chef de Terre-Neuve qui m'avait cuisiné le lichen.
Ah oui.
C'est intéressant à travailler aussi. Je ne sais pas si c'était prévu dans le menu, mais...
Absolument pas.
Fait partie des choses comme ça à découvrir. Ben oui, même à Forestville, je pense qu'on peut y trouver... sur la Basse-Côte-Nord, on trouve du lichen, on peut trouver du
lichen. Absolument, ouais.
On fait un petit quiz.
D'accord.
Marie-Lou?
Écoute, là, je ne sais pas c'est quoi les chances que ça arrive, mais on a comme donné un indice là, pour une de mes questions que j'allais passer à l'instant, qui était parmi ces trois fruits sauvages qui poussent au Québec, lequel n'est pas comestible. je vous lis les choix.
Allez-y.
Le premier s'appelle la brionne. Le deuxième s'appelle les amélanches et le troisième, c'était la chicoutée.
Bon, donc la première.
Bon, moi, j'y vais avec le premier choix.
Moi aussi.
C'est en effet la brionne qui est nommée, qui est surnommée Navet du Diable. À ne pas s'approcher, ça a l'air tout inoffensif pourtant. Et la chicoutée, j'avais noté aussi que certaines personnes appelaient ça de la plaque bière.
La plaque bière. Ouais.
Je ne sais pas si ça peut peut-être donner un indice pour vous.
C'est Éric. L'autre nom de la chicoutée, hein, la plaque bière.
Ouais. Je m'étais dit, au cas où que quelqu'un connaisse sous son autre nom le fruit. Prochaine question. Alors, là, c'est dommage que Romain ne soit plus là parce que c'était un peu plus de son registre. Mais au Québec, on produit beaucoup de vin, assez pour remplir des étagères. Combien y avait-il exactement des producteurs de vin au Québec en 2021?
Je vais regarder Kevin, moi, cette fois-ci. Et Yves.
A, 287. Ouf. B, 363. Ou C, 435.
Wow. Ouais. Ben, déjà, au départ, c'est pas beaucoup mal, hein? Plus de producteurs que je pouvais croire.
Ouais.
Ouais.
Donc, je vais tenter d'y aller avec le plus petit nombre.
Oui, moi aussi.
287?
Ouais. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aurais dit ça. Mais...
Je vais mettre la B. C'est
tout. Ouais. Allez, pour gagner. C'est
d'être différent. Parce que j'ai aucune idée.
Et toi, Joël?
Mais je vais y aller avec C, parce que tu as dit qu'il y en avait assez pour remplir les tablettes. Fait que je vais essayer.
C'est pas mal.
C'est bon, c'est bon. Mais en fait, c'était le deuxième, c'était 363. Wow. Et ça, c'est il y a maintenant 3 ans. Et il y avait un volume de production de 2951 tonnes de raisins. Donc, on devrait remplir beaucoup d'étagères avec ça.
C'est encore tout petit, mais c'est déjà beaucoup.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, ouais.
Pour un terroir qui n'est pas si facile. Mm-hmm.
Produit sous la tente.
Ouais.
On a bien compris. Des tipis.
C'est ça. Oui, c'est ça. Dans des igloos. Oui. Bon.
Alors, septième question. On connaît tous les cretons. Ben, peut-être, est-ce que vous connaissez les cretons?
Non.
Bon, on connaît presque...
C'est comme les rillettes.
Oui,
friables, en fait. C'est juste que la texture n'est pas tout à fait la même. Mais bon.
J'allais dire, c'est ma belle famille, mais...
Alors, on connaît presque tous les cretons, mais connaissez-vous les cretonnades?
Ah.
Il y a une mince différence entre les deux. Quelle est-elle? Alors, A, une cretonnade, c'est du creton sucré-salé avec des canneberges.
Ah.
Ou B, c'est du creton mélangé à de la moutarde. Ou c'est du creton à base de viande maigre pour remplacer le porc qui est habituellement utilisé.
J'irais avec la troisième.
Ouais, hein?
Ouais.
Ça sent la troisième.
Ouais, ça sent la troisième. Ouais. Même la si la moutarde, la ça me plaît bien.
La bille.
Ouais, bien. La moutarde,
c'est bon. Vous aimeriez la moutarde, mais j'ai vu des photos de creton avec énormément de moutarde dessus, mais ce n'était pas ça qu'on cherchait, c'était vraiment la troisième.
Ah,
c'est, on utilise en fait de la volaille ou du veau à la place du porc pour mériter son nom de cretonnade. Ça rend ça plus festif. Et là, finalement, dernière question.
Dernière, oui.
Le fromage en grains, ou le fromage qui s'appelle Squick Squick, là, pour les intimes.
Avez-vous une occasion, Eric?
Non, pas encore.
Pas encore non
vous
plus.
Vous n'avez pas mangé de poutine?
Kevin?
Hey, non, je suis allé hier. Hein.
Franchement!
Désolé.
J'ai fait
sirop
d'érable aujourd'hui, c'est pas mal déjà.
Bon.
Alors, le fromage en grains, c'est le fromage, un ingrédient essentiel à la poutine, comme on sait tous. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il s'agit en fait d'un certain type de fromage qui n'a juste pas subi de pressage. Quel est ce fromage? A, du cheddar. B, de la mozzarella, ou C, du suisse?
Moi, je dis rien,
On peut laisser nos amis répondre.
Ben oui.
J'ai du cheddar.
Ben oui.
Hein? Je vais aller avec le cheddar aussi.
Ouais. C'est en effet du cheddar.
C'est le premier cheddar.
C'est du cheddar qui, en fait, c'était ça, l'histoire du fromage Quick rapidement, là, mais c'est qu'il y avait des surplus de lait, puis ils ne savaient plus trop quoi faire avec. Donc, ils ont juste inventé une façon de faire du fromage vraiment rapidement, là, puis ça a pogné. Là. Tout le monde a aimé ça. Là. Ça s'est vendu. Là. Ça continue.
Et encore aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer.
Ouais. Exactement.
Mais c'est le premier cahier.
C'est
vraiment
le cahier, oui, exactement. C'est vraiment ça. Avant d'être pressé.
Avant d'être pressé. Alors, c'est merveilleux.
Ouais.
C'est...
Exactement. Fait que moi, c'était tout de mon côté.
Merci, Marie-Lou.
Mais merci à vous. J'espère qu'il y a des gens à la maison aussi qui ont eu des bonnes réponses.
Bonnes réponses quand même. Même Derek, j'ai entendu des bonnes réponses.
C'est vrai.
Au moins, on a eu le sourire, nous.
En plus. On va terminer cette émission en allant faire un petit tour aux îles de la Madeleine. Éric, vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter, évidemment.
Non plus.
Je vous souhaite un jour. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Vous venez de la région de Guérande. On fait des sels, des marais salants même, hein, du sel de la fleur de sel.
Hein,
c'est vraiment typique.
On dit même la fleur de sel des vents d'Est.
Joli. Et donc, c'est typique de la région. Il n'y a pas de marais salants au Québec, ni même aux îles de la Madeleine, mais ils ont réussi quand même... À force de créativité, mais moi, je ne sais pas pourquoi ce n'était pas arrivé avant.
Mais c'est une bonne question. En fait, ça fait même plusieurs années qu'on avait l'idée, là, depuis même 2015-2016. C'est vraiment plus vers la fin 2020 qu'on a entamé le processus. Mais effectivement, il n'y avait pas de sel québécois, qui est quand même un ingrédient de base en cuisine, le sel. Là. Fait qu'avoir une alternative locale, ça s'imposait, je pense. Donc, effectivement, on a la fleur de sel sur la plupart des tables. Donc, maintenant, on a le sel de mer aussi, parce que on n'a pas de marais salant. Donc, nous, ce qu'on fait... C'est en atelier, donc le marais salant, c'est en nature. Nous, on transforme l'eau de mer des îles de la Madeleine. Donc, on va récupérer l'eau, on l'apporte jusqu'à notre atelier, puis là, c'est transformé tout d'abord par évaporation, puis ça va, après, c'est ça, il y a tout le procédé, puis ça va créer la fleur. Ben, c'est pas une fleur de sel, on peut pas appeler, c'est une appellation contrôlée, en fait, la fleur de sel, parce que c'est les premiers cristaux dans les marais salants. Nous,
sur la surface,
oui, exactement, vraiment ça, à fleur d'eau, donc c'est de là que vient le nom. Et puis, nous, c'est du sel de mer, donc c'est un sel de finition, c'est la même utilisation, c'est simplement que c'est fait.
Donc, c'est quoi? L'eau est bouillie, puis en gros, après ça, c'est quoi? C'est simplement déshydraté? On retire l'eau, en fait, pour récupérer les cristaux? Est-ce que c'est aussi simple?
Bien, en fait, oui et non, dans le sens où c'est quand même un procédé qui va aller allier le temps, la température. Donc, il faut vraiment avoir le bon mélange des deux. Mais c'est ça. On va évaporer l'eau. Après ça, les cristaux vont se former à la surface. On va les récolter, puis on va les faire sécher. C'est un procédé qui prend à peu près 5 à 8 jours là, pour, entre le début et la fin pour arriver au résultat final. Puis c'est le temps, la température qui va donner ben, le goût, qui va donner la texture, puis qui va donner aussi la forme des flocons. Là, on voit, c'est un peu comme des...
Est-ce qu'on a un paquet d'ouverts, nature? Parce que j'aimerais bien j'aimerais avoir vos commentaires. J'ai quand même 3 chefs devant moi. J'aimerais qu'ils me commentent à la fois, parce que quand on goûte un sel, c'est la texture, évidemment, hein, le croquant. C'est aussi ces minéraux, donc le goût que les minéraux vont laisser. Moi, pour avoir fait déjà des tests entre plusieurs sels, il y a des différences.
Oui, puis,
tous les sels ne goûtent pas tout à fait
la
même chose.
Chaque sel est influencé par sa position géographique aussi. Nous, c'est sûr que c'est propre à la mer des îles. Donc, c'est un sel qui est assez doux. L'eau des îles est reconnue pour ça.
Yves?
Ben, déjà, la cristallisation est différente. Là, si on compare au Maldon ou même au sel de Guérande.
Le Maldon qui a des cristaux très plats. Hein,
comme oui,
donc,
puis c'est comme une pyramide, le Maldon, là, quand on le regarde de près. Mais celui-là, il est super bon. Comme on dit, c'est plus doux un peu. Mais moi, je suis déjà très content qu'on puisse avoir ça au Québec. Wow.
Et moi, je trouve qu'il ressemble un peu à la... Enfin, je ne devrais pas dire la fleur de sel, parce que maintenant, ils n'ont plus le droit de le dire, mais aux essais de fleur de sel qu'ils ont fait en Camargue. Par rapport à la fleur de sel de Guérande, il est plus salé. Fleur de sel de Guérande, on est plus ronde. Okay. On a vraiment un grain... qui est plus rond. En plus, moi, j'ai un producteur qui va me la trier, donc j'ai vraiment tous les petits grains de la même taille et tout le tralala.
Oh là là.
Par contre, il est très agréable, c'est bon, et puis il craque bien, il est bien croquant, là. Il est juste un petit peu plus salé que le nôtre.
Kevin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'y goûter? Parce que je suis ici pour avoir le commentaire de mes 3 chefs, c'est quand même mes experts. Joël, apparemment, ça va bien aller. Hein.
Oui, ben là,
est-ce que déjà, parce que là, j'imagine, c'est bon, c'est une petite production.
Oui, là, c'est sûr qu'on est de taille artisanale, donc on vend principalement à notre boutique aux Îles-de-la-Madeleine. Puis on a quelques points de vente à travers le Québec. Puis on est sur quelques tables, mais c'est très limité parce qu'on a, comme je mentionnais, on a une petite production. Mais oui, fait que c'est le fun d'avoir des commentaires comme ça de gens, de spécialistes, en fait, hein, parce que vous précisez que vous aviez les marais salants en proximité, là, donc c'est le fun.
Ce qui est agréable, c'est que votre sel, il ne brûle pas. C'est des fois, quand on goûte un sel comme ça, en nature... il brûle la langue. Et là, ça ne brûle pas la langue.
Okay. Est-ce que ça vous inspire, pour les chefs, comme ça? Parce que souvent, on peut les utiliser, évidemment, en finition, toujours sur les plats salés, mais aussi sucrés. On aime bien
mettre
sur
absolument, le... Absolument, caramel
qui parlait tout à l'heure de caramel, au beurre salé, évidemment, mais pas dedans, dessus, ou sur la ganache.
Oui, encore une bonne idée aussi, oui. Dans mon cas, moi, je pense que je vais attendre un peu avant de faire signe pour une commande, là, parce qu'au Centre Bell, le volume est un peu plus gros.
Et au Lloyd, j'imagine, un peu la même chose, Kevin.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il est cassant. Enfin, le cristaux est pas... Le cristaux est pas dur, il est vraiment cassant. Donc, par exemple, même si on le mettait sur une viande, il y aurait ce côté-là, c'est agréable à manger si on veut rajouter sur une viande. Moi, je ne connaissais pas du tout parce que c'est la première fois que je vois le produit.
Mais c'est tout nouveau. Ça fait qu'on a lancé sur le marché, ça fait seulement 1 an et demi. Là, fait qu'on commence à faire connaître, là, justement. Ouais.
Et puis, je pense que c'est vraiment une bonne initiative parce qu'il n'y avait pas...
Ouais.
La première fois que je vois ça. Et puis, au moins, au lieu d'importer, c'est peut-être... Enfin, encore, c'est mieux d'acheter en local.
Absolument. Quoi.
Oui, alors vous n'aurez sûrement pas le volume que ce que la Camargue ou encore le
Les marais de Guérande,
peut fournir, ou même, j'allais dire, il y en a d'autres, il y a en Italie, en Espagne, enfin, il n'y a pas beaucoup de pays méditerranéens qui produisent aussi ce genre de produits de sel de finition. Je ne vois pas toutes les fleurs de sel, je vais prendre une précaution. Ouais. Est-ce qu'il y a du potentiel pour augmenter les volumes, pour devenir un fournisseur,
c'est sûr que
et que pour aussi le grand public puisse s'en acheter à l'épicerie?
Bien, là, c'est accessible au grand public. Comme je disais, on est près dans une cinquantaine de points de vente au Québec. On a notre boutique en ligne qui fonctionne également. C'est sûr que nous, notre grand rêve, ce serait d'être dans toutes les assiettes au Canada. En tout cas, on va commencer avec le Québec. Là.
Oui, mais commençons par le début.
Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est sûr qu'on a des grands rêves et tout. Mais oui, absolument, c'est notre objectif là, de pouvoir se retrouver sur le plus grand nombre de tables possible.
Et alors, vous avez commencé à les assaisonner aussi. C'est un produit dérivé de votre sel naturel.
Oui, exactement. On a des sels aromatiques. Puis depuis, juste avant les fêtes, on a aussi un sel fumé qui est fait, peut-être vous connaissez le fumoir d'antan, qui est quand même une institution aux Îles-de-la-Madeleine. Mm-hmm. Fait qu'on a une collaboration avec eux. On veut développer davantage aussi de collaborations avec des producteurs locaux. On a une qui s'en vient aussi très prochainement. Fait que oui, on a une gamme maintenant de 8 produits qui est disponible.
Le sel fumé, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, les chefs?
Ouais, c'est cool.
Ouais?
Ouais, moi, j'aime bien.
C'est... Ouais. Comment ça peut complémenter un plat? De quelle façon on va utiliser un sel fumé?
C'est une bonne question.
Moi, j'aime beaucoup le sel fumé parce que chez nous, on a la tourbe ambrière qui est la décomposition des végétaux.
Ouais.
Et du coup, la tourbe, elle a 3-4 000 ans d'années. Et on la récupère, on la fait sécher et on fait fumer avec ça. Et c'est un côté un peu avec une belle acidité. Et du coup, on va faire même fumer le sel. Et ça apporte en même temps, je dirais, une note d'histoire de notre région, de notre pays. Et ça nous ramène au... Moi, j'aime bien parce que ça nous ramène au titre de passeur. Parce que nous, finalement, on est là que quelques temps sur la Terre.
Ouais.
Et ça nous ramène vraiment à cette histoire et tout ce qui touche un petit peu à la tourbe. On a le bois de Morta aussi, qui est un bois en semi-fossilisation qu'on met sur nos couteaux. Et j'aime bien transmettre ces choses-là parce que ça permet aux gens aussi
sur
de
couteaux,
prendre...
Sur les couteaux, on parle de l'aliment.
Non, du couteau, des couteaux de table.
D'accord.
Ouais. Okay. Et c'est vraiment aussi quand on sert comme ça d'un truc fumé qui vient de... Et qu'on l'assemble à je trouve, au sel. On est à la fois dans quelque chose qui touche nos racines, la terre. On est à la fois dans quelque chose qui va toucher l'eau. Donc, on est dans un élément qui est transmetteur d'émotions et de choses comme ça. Et puis, on a besoin du ciel. Et donc, on a aussi cet envolé qui nous permet de rêver et de créer. Voilà. Donc, c'est un produit complet.
J'allais dire, il est lyrique, votre collègue Kevin, voire pas ésotérique quand même.
Oh, des fois, ça m'arrive. Ça, ça dépend de l'heure.
J'ai plus rien à dire, moi, après ça.
C'est très inspirant. Hein.
Non, mais c'est complet.
Ben oui, il faut, mais c'est ça, raconter des histoires, ce dont on parlait tout à l'heure.
Exactement.
Et voilà, exactement.
Et faire prendre conscience aux gens qu'il y a un petit truc tout simple comme le sel, le grain de sel. En fait, c'est un diamant de la nature. Et quand
mais c'est vrai,
par
parce que c'est le travail.
C'est extraordinaire. Et puis une cuisine travail, sans sel... C'est pas bon.
Ah, alors ça...
Je suis bien d'accord avec
Joël.
Vous.
Donc, on va sur quel site là, pour avoir les informations pour acheter le sel Alcyon? Alcyon, d'ailleurs, ça veut dire quoi, rapidement?
Oui, ben, en fait, c'est une entreprise familiale, Alcyon, si je peux préciser.
Oui.
Puis l'Alcyon, en fait, ben, c'est un oiseau de la mythologie grecque qui était signe de bon présage en mer. Mais pour nous, c'est le nom du bateau de pêche, en fait, à notre père quand on était enfant. C'est notre premier contact avec la mer. Fait qu'un Alcyon, c'est un oiseau, mais pour nous, c'est le nom du bateau aussi. On est très près de la mer. Puis pour s'en procurer, ben, c'est Alcyon, c'est A-L-C-Y-O-N, oui. Sel. .com. Enfin, vous pouvez vous rendre sur notre site.
Merci beaucoup, Joël Arsenault, donc, pour le sel Alcyon. Une belle découverte de nos chefs ici, puis une belle découverte pour nos auditeurs et auditrices.
Merci.
De manger local, de saler local, une chose extraordinaire. Je vais remercier aussi nos autres invités de l'émission. Yves Lowe, donc, pour l'événement chez Mythique avec Jérémy Charles.
Oui.
Terre-Neuve qui rencontre le Centre
Bell. Ce vendredi soir et samedi. Le 8 et le 9 mars.
Éric Guérin, Kevin Mougin, merci beaucoup. Donc, un événement au Lloyd, il reste des places.
Oui, pour demain et après-demain, 6 et 7, il nous reste des places. On vous attend nombreux.
Ça va être magnifique, je pense.
Et pour la rencontre aussi, parce qu'on va sortir en salle.
Ouais. Ben oui, j'imagine. Hein, vous allez rencontrer les clients,
les
clientes.
Raconter
des histoires. Ben là, on a un poète en plus de la gastronomie qui va pouvoir faire plaisir à tous les gens qui auront le plaisir de goûter au menu. Donc, de vous deux, Éric Guérin et Kevin Mougin, merci beaucoup. Merci, Marilou.
Ça m'a fait plaisir.
Merci pour le petit quiz.
C'est rien.
Ça a bien marché, on a appris des choses en plus.
Oui. Bon, c'est vrai.
Oui, c'est bien. Oui. Hein, on retient à Mélenchier.
Ça m'a surtout donné envie de revenir pour approfondir ma connaissance.
Chicoutez, un petit tour sur la côte nord, à Terre-Neuve, aux îles de la Madeleine. Vous n'avez pas terminé de découvrir le Québec. Et merci à Romain Gruson pour son délicieux muscadet. On se retrouve la semaine prochaine. Sophie Ginoux, que je vois derrière la vitre, que je dis coucou, sera là à l'antenne avec moi, j'espère, la semaine prochaine. Et évidemment, moi, d'ici là, je vous souhaite un très bon festival Montréal en Lumière et évidemment, un excellent appétit.
Merci. Ciao.
Merci.
Merci.
Dupuis, c'est moi le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 heures sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country 100% francophone et canadienne. Du hillbilly boogie au western en passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone tous les dimanches de 7 heures à 9 heures sur les ondes de CIBL.
Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, rappeur, nouveau papa et nouvel arrivant au Canada grâce à Anis Bourbier, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
CIBL 105 Montréal. CIBL 105 Montréal.
CIBL 40 años en el corazón de la cultura.